forum district, the 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 forum district,
les 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangu. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangu qui sont diffusés en direct par 41 radios partenaires dans les 8 régions du Niger. Aujourd'hui, le thème du forum du studio Kalangu a pour thème la délinquance juvénile au Niger, vol et meurtre commis par les jeunes. La délinquance juvénile prend de plus en plus d'ampleur au Niger, comme plusieurs autres pays africains qui traversent une crise économique depuis quelques années. La pauvreté s'est installée, créant de ce fait un certain désordre au niveau social. Aujourd'hui, nous assistons de plus en plus à l'accroissement chez les jeunes du vol à l'arraché ou à main armée, du meurtre et d'autres types de banditisme. Ce phénomène est devenu monnaie courante à Niamey, la capitale du Niger, et fait parfois la une des médias. Quelles sont les causes de la délinquance juvénile au Niger? Quel impact sur le développement du pays? Quelles sont les conséquences de la délinquance juvénile des jeunes au Niger? Pour répondre à toutes ces questions, nous sommes dans ce studio avec M. Mustapha Agali, juge des mineurs, Seyni Jubo, président de l'Association nigérienne pour le traitement de la délinquance et la prévention du crime ANTD. À la présentation, Fatih Zakari. Bienvenue à tous dans ce forum « La délinquance juvénile au Niger, vol et meurtre commis par les jeunes ». Monsieur Agali Mustapha, juge, expliquez-nous ce que c'est que la délinquance juvénile.
La délinquance juvénile, c'est tout simplement les jeunes qui sont en conflit avec la loi, dans mon entendement. Les jeunes en conflit avec la loi, donc ce sont ces jeunes-là qui, dans le cadre de leur vie, ont été amenés à commettre des infractions à la loi, notamment à la loi pénale. C'est ce qu'il faut ajouter aussi au Niger. Ces dernières années, nous avons constaté une certaine recrudescence de cette délinquance juvénile, comme vous l'avez appelé. Et moi, j'allais parler tout simplement des jeunes qui sont en conflit avec la loi.
Quelles sont les causes de la délinquance juvénile au Niger?
Dans un premier temps, l'éducation. Un enfant qui est mal éduqué, il va de soi qu'il tombe dans la délinquance. Il faut une éducation vraiment qui apprend à l'enfant comment s'en sortir la vie sans tomber dans l'illégalité, et tout en restant digne et droit dans sa vie. De l'autre côté, il y a la pauvreté. La situation de la pauvreté amène beaucoup de jeunes aussi à se jeter dans la délinquance. À mon avis, c'est les deux facteurs là qu'il faut prendre en compte dans le déclenchement de cette délinquance.
Monsieur Seyni Jubo, vous êtes chargé de protection à l'ANTD. Faites-nous une brève présentation de votre association, l'ANTD.
L'ANTD, c'est l'Association nigérienne pour le traitement de la délinquance et la prévention du crime. Nous sommes une ONG nationale qui œuvre dans le cadre de la protection de l'enfant depuis pratiquement 20 ans.
Quelle est donc la mission principale de votre association?
C'est d'abord d'œuvrer aux côtés des enfants. Et comme l'intitulé de la structure l'a dit, c'est pour d'abord œuvrer afin que les enfants ne puissent pas tomber dans la délinquance. C'est pourquoi on parle de traitement de la délinquance et la prévention du crime. Parce que dès qu'il y a délinquance, il y aura inévitablement crime, parce que ça commence à partir de la petite délinquance, jusqu'à ce que ça devienne quelque chose d'efficace qu'on ne peut pas contrôler. Donc les grands crimes organisés.
Monsieur Mustapha Agali, qu'est-ce qui pousse les jeunes à faire de la délinquance?
Oui, nous avons tout à l'heure évoqué deux facteurs. Nous avons dans un premier temps évoqué une éducation. L'éducation pour tout enfant, vous savez que c'est un facteur essentiel. Voilà. Nous avons évoqué la pauvreté. Peut-être qu'à cela, on peut ajouter un peu l'ignorance, mais bon, ce n'est même pas un facteur ça, parce que tout compte fait, ce qui est bien, on le sait, ce qui n'est pas bien, on le sait pas. Un enfant qui vole et ce qui vole, ce n'est pas bien. Ce n'est pas forcément l'ignorance des lois qui les conduisent qui les conduit à cette délinquance, mais c'est plutôt les deux facteurs là que nous avons précédemment évoqués, notamment l'éducation, le manque d'une éducation et la pauvreté.
Monsieur Seyni Djoubo, vous êtes un chargé de protection de l'ANTD. Quelles sont les actions que vous menez à propos de la délinquance au niveau de l'ANTD?
Nous menons plusieurs activités. Ces activités sont d'abord, comme je le disais, œuvrer aux côtés des enfants. Pour œuvrer aux côtés des enfants, il va falloir nécessairement connaître c'est quoi un enfant. Et l'enfant, c'est d'abord un être, n'est-ce pas, âgé de moins de 18 ans. Et on dit sauf la majorité atteinte en vertu de la législation qui lui est applicable. Ça, c'est la définition de la CDE, la Convention des droits des enfants. Donc, s'il n'a pas 18 ans, on considère qu'il n'est pas encore mature pour un certain nombre de choses de la vie. Donc, il est toujours victime. Maintenant, ce que l'ANTD fait, n'est-ce pas, pour empêcher cette délinquance, c'est d'œuvrer, n'est-ce pas, aux côtés des enfants. Je vous prends un tout petit exemple. Par exemple, les enfants qui font la rue, les enfants, n'est-ce pas, communément appelés prostituées, nous, on les appelle des enfants en situation de prostitution. Parce que nous estimons qu'il y a une situation qui les amène là-bas. Au lieu de juger ces enfants, de les condamner, nous créons les conditions d'aller vers ces enfants, les approcher, n'est-ce pas, et créer un contact, créer une dynamique entre nous, afin que ces enfants puissent se sentir à l'aise. Et souvent, le plus souvent, c'est des enfants, madame, que vous allez retrouver qui ont perdu l'estime de soi, qui ont traversé un certain nombre de difficultés. Et donc, à ce niveau, nous créons les conditions pour un appui psychosocial. Après l'appui psychosocial, il y a bien évidemment des suivis réguliers qui sont là, jusqu'à ce que nous puissions connaître les vrais mobiles qui a amené l'enfant dans cette situation et nous apportons une réponse adéquate. Ça, c'est un premier exemple. Maintenant, un second exemple, vous allez voir des enfants qui se trouvent, n'est-ce pas, les enfants de la rue. Les enfants de la rue, là aussi, nous travaillons avec ces enfants. Et nous créons toujours ce qu'on appelle la confiance avec ces enfants. Parce qu'il est très facile de juger ces enfants sans pour autant connaître les vrais mobiles qui les a poussés dans cette situation. Là aussi, nous œuvrons avec ces enfants et je vous assure que dans la plupart des cas, ça marche.
Avant de continuer, je vous invite à présent de suivre ces quelques réactions des jeunes à recueillir.
La responsabilité de tout un chacun est interpellée. Et qu'est-ce que j'aimerais dire ici? En ce qui concerne l'État, en ce qui concerne la société et aussi les parents d'élèves, aux parents d'élèves ou bien aux parents des jeunes particulièrement, de prendre toutes les mesures idoines pour assurer l'éducation de leurs enfants. Comme disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Donc, c'est ce que je vois en ce qui concerne la responsabilité des parents. En ce qui concerne aussi la responsabilité de l'État, c'est d'accompagner ces jeunes. C'est très humiliant et désolant de voir les jeunes dans la rue sans pour autant avoir quelque chose à faire. Donc, c'est ce qui amène souvent, dans la majorité des cas, à ce que ces jeunes s'adonnent à ce genre de pratiques malsaines.
Et vous savez que la délinquance juvénile est un problème complexe à multiples facettes, puisque quand vous prenez de nos jours, la technologie a tout changé, surtout avec l'avènement des smartphones. Les jeunes peuvent passer le clair de leur temps à regarder des jeux vidéo, des films d'action, des guerres, des viols, des crimes, ainsi de suite. Donc, du jour au lendemain, ils vont pouvoir s'en prendre à la réalité, à vouloir essayer un jour. Et du moment où le jeune a une fois essayé, avec le temps, il sera vraiment un bandit par excellence, si je peux le dire, un criminel de première classe. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la pauvreté joue un rôle capital de la délinquance juvénile, puisque les parents sont pauvres, le jeune est là, il n'a pas de quoi manger, donc il est obligé vraiment de passer par tous les moyens pour se sauver.
Monsieur Mustapha Agali, vous êtes juge, quelle est donc votre réaction par rapport donc à ces jeunes?
les situations qui conduisent les enfants à la délinquance, c'est surtout l'éducation et à la situation de la pauvreté. Le plus souvent, les enfants issus du milieu défavorisé sont plus tentés par la délinquance, sont plus exposés, si vous voulez. Ce sont des situations comme ça qu'il faut prendre en compte pour les structures comme les ONG qui aident ces enfants. Ce sont des situations comme ça qu'il faut prendre en compte. Un enfant scolarisé qui est à l'abri des besoins est plus protégé, plus à l'abri de cette délinquance. Mais un enfant qui est là et qui n'a pas de, qui a son temps libre et qui n'a pas de quoi manger, il est exposé parce qu'il faut sortir dans la vie, chercher à manger.
Monsieur Seyni Jubo, chargé de protection de l'ANTD.
Je pense que les jeunes du moins ont raison par rapport à leur opinion. Je respecte entièrement ce qu'ils ont dit. Le problème des délinquances, comme je le disais, c'est un problème, n'est-ce pas, qui concerne la société, mais en réalité, les vecteurs qui amènent cette délinquance, c'est nous autres, les adultes. Dans leur intervention, j'ai entendu dire que c'est un problème d'éducation. Je suis tout à fait d'accord. Mais moi, je ne dirais pas un problème d'éducation, mais je dirais plutôt un problème d'encadrement familial. Et un problème aussi de regard. Aujourd'hui, il y a un délaissement au niveau de la société, au niveau des familles. Et ce délaissement ne peut pas ne pas avoir une réponse parce qu'aujourd'hui, le problème de la délinquance, c'est un problème urbain, n'est-ce pas? C'est un problème interprété comme étant essentiellement du progrès d'une société, n'est-ce pas, qui quitte une phase traditionnelle, n'est-ce pas, et vers une phase plus ou moins économique. Donc, ce qui amène ces enfants, et j'ai entendu tout à l'heure monsieur le juge le souligner, c'est une affaire économique. Parce que vous conviendrez avec moi que lorsque une famille, n'est-ce pas, n'a pas les ressources nécessaires, il va de soi que les gens se débrouillent un peu partout pour chercher ces moyens. Et souvent, malheureusement, ce sont les jeunes qui sont envoyés dans cette entreprise. Malheureusement, au lieu que ça donne des aspects positifs, les jeunes tombent dans la dépravation. Quand vous essayez d'interviewer un certain nombre de jeunes qui se trouvent dans la rue, vous allez comprendre cet aspect. Parce que le plus souvent, c'est des jeunes qui ont quitté, n'est-ce pas, les villages pour revenir dans les zones urbaines pour chercher, n'est-ce pas, un bien-être afin qu'ils puissent s'occuper de leurs parents qui se trouvent au village. Mais malheureusement, ces enfants sont devenus des enfants de la rue. Ils dorment dans la rue. Souvent même, on les envoie pour venir chez des parents dans les centres urbains. Mais malheureusement, ces enfants échappent au contrôle de leurs tuteurs. Donc, ils deviennent ce qu'ils sont. Ils se trouvent dans la rue. Et ça commence le plus souvent avec les petits banditismes, comme je l'ai dit. La prise de drogue, les petits vols, et des petites agressions, vol à l'arraché, souvent si vous voulez. Et du coup, partant de là, souvent, je m'excuse aussi de l'expression, souvent ces enfants, quand ils sont pris, envoyés en prison, malheureusement, la prison c'est une mauvaise école. Ces enfants sortent souvent bien encadrés là-bas parce qu'ils trouvent encore d'autres plus âgés qu'eux qui vont les entraîner, n'est-ce pas, à d'autres manières de voler. Et donc, ces enfants sortent avec, n'est-ce pas, un esprit, au lieu d'être bien améliorés, ils sortent avec l'esprit de gangstérisme.
Nous allons à présent suivre les explications du sociologue Alou Aye sur ce phénomène et aussi ce qu'il faut pour un changement de comportement.
En fait, c'est véritablement un phénomène qu'on a brossé et qui est d'actualité, qui est de plus en plus récurrent si on constate ou si on observe un peu l'évolution de la société nigérienne. Eh bien, ce phénomène, on peut l'expliquer à travers un certain nombre de raisons. Donc, une des raisons se trouve être le système de transmission de valeurs le système de transmission de normes dans une société, ce que nous appelons la socialisation. La socialisation, si vous voulez, c'est comme une sorte de moule. Aujourd'hui, que vous décidez peut-être de partir au niveau d'un moulin, vous amenez votre riz, peut-être, ou vous amenez votre maïs ou votre sorgho, eh bien, ce moule, ce maïs, ce sorgho-là, doit être transformé selon, par le meunier, selon votre désir, en un produit fini. Eh bien, c'est le même dispositif que la société a pour transformer les individus qu'elle arrive à mettre au monde pour que ces individus-là puissent être des responsables demain, qu'ils puissent jouer un rôle dans la communauté, dans la société. Mais malheureusement, tout comme au niveau de la machine, il y a les résidus qui vont sortir par un autre port, qui vont se retrouver sous forme de sang, et bien dans le mécanisme de la société, malheureusement, on a ce qu'on appelle les contre-valeurs. C'est des individus qui vont porter autre chose que les valeurs que la société est en train de vouloir incarner. Et bien ces jeunes qui sont aujourd'hui de plus en plus enrôlés dans cette délinquance juvénile, et bien constituent malheureusement ces déshydratats de la société. Ces individus qui sont en train de prôner les contre-valeurs. Parce qu'au moment où les valeurs sont là, nobles, transmises de génération en génération, pour que nous puissions avoir des hommes responsables demain, eh bien, il y a ceux qui, du fait parfois du système même de transmission de l'éducation ou de ces valeurs, eh bien, sont victimes ou ont été à la marge, eh bien, se retrouvent malheureusement dans ce genre de situation où ils sont obligés, eh bien, de se retrouver dans la rue. Et l'éducation de la rue n'est rien autre qu'une éducation de contre-valeurs par rapport aux normes qui sont, elles, édictées, enseignées, soit dans la famille, à l'école, au groupe de pères, ou bien à travers la communauté. Mais maintenant, de l'autre côté, c'est la rue qui leur donne ces valeurs. Et c'est pourquoi vous allez avoir des petits délinquants, des petits voleurs, des petits, comment est-ce qu'on appelle, preneurs de stupéfiants, de ceci, de cela, qui sont véritablement en porte-à-faux à travers, avec les valeurs de la société. Eh bien, donc, si nous devrions acquiser, je pense que nous devrions acquérir fondamentalement notre système d'éducation à la base. Parce qu'un enfant ou chaque individu aura forcément besoin d'avoir cette éducation de base pour qu'il puisse réussir ou évoluer en respectant les normes. Tous ceux qui, d'une manière générale, ont échoué dans l'éducation de base à leurs enfants, eh bien, vous allez avoir comme résultat ce genre de choses. Et aujourd'hui, la preuve est là, malheureusement, ces jeunes que nous sommes en train de voir dans la délinquance, il faut partir faire l'historique de leur famille, de leur société, de leur milieu, j'allais dire, ou de leur quartier, vous allez voir que c'est des jeunes qui ont évolué, soit à l'absence de la mère, soit à l'absence du père, ou bien les deux quasiment absents. Donc, qui ont tout le temps erré dans la ville, dans les rues, et ils ont pris les contre-valeurs qui sont là-bas. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, il faut forcément revenir à nos valeurs intrinsèques afin de pouvoir transmettre les bonnes valeurs et limiter au maximum, parce qu'on ne dira pas qu'il n'y aura pas, il y aura forcément des individus qui vont porter les contre-valeurs, mais on va essayer d'endiguer au maximum pour que nous puissions avoir, de la même manière qu'on a une grande majorité de la population jeune, qu'on ait véritablement une grande majorité de cette population qui croit en ces valeurs et qui va rester dans ce carcan que la société a voulu construire pour eux afin que demain ils puissent être de véritables responsables.
Les enfants ayant commis des crimes ou délits sont considérés comme des enfants en conflit avec la loi. Monsieur Mustapha Agali, vous êtes juge. Que prévoit la loi qui pourra sanctionner le vol ou le meurtre?
Lorsqu'un enfant va être en conflit avec la loi, il faut distinguer un certain nombre de situations. Lorsque l'enfant est mineur, il faut distinguer qu'il soit mineur de moins de 13 ans ou pas. Et lorsqu'il a moins de 13 ans, il faut aussi distinguer qu'il ait le discernement ou pas. Donc la loi tient en compte toutes ces situations pour déterminer le sort de l'enfant. Lorsque c'est un mineur, d'abord il faut retenir qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit, du vol comme vous l'avez dit, ou d'un crime, donc la compétence du juge de mineur. C'est le juge de mineur qui va instruire l'affaire et qui va la juger. Mais lorsque c'est un crime, c'est un tribunal qui va réunir trois juges qui vont écouter l'enfant et qui vont, comment on appelle ça, déterminer, fixer la peine. Maintenant, il y a un paramètre très important à reconnaître qui est contenu notamment dans la convention que l'a évoquée, la CDE, la convention sur les droits des enfants. Vu que l'emprisonnement pour l'enfant en conflit avec la loi est l'option, l'ultime option, ou si vous voulez, la mesure la moins envisageable pour le juge. des rares cas qu'il faut envoyer un enfant en prison parce qu'on sait que la prison, le milieu carcéral, ce qu'il constitue déjà, ce qu'il peut apprendre là-bas ou quelle transformation il peut subir là-bas. Donc, pour la plupart des cas, la détention ou l'incarcération est une mesure qui n'est pas envisageable pour un enfant mineur et qui est un délinquant mineur. Maintenant, en ce qui concerne aussi la peine, il y a déjà l'aspect légal qui dit que pour l'enfant mineur, la peine est applicable à la moitié. Pour un enfant mineur, au lieu que ce soit par exemple 10 ans, la loi dit qu'il faut le condamner à 5 ans. Vous voyez un peu, et déjà avec les 5 ans, il faut tenir compte de ce qu'on appelle les circonstances atténuantes, la situation des mineurs et des délinquants mineurs. Comme ça, en fait, très souvent, les mineurs ne sont pas l'objet d'une peine sévère en pratique. C'est un peu ça. Et maintenant, il y a aussi un certain nombre de mesures que la loi donne la possibilité de prendre. Les mesures de protection, les mesures de réinsertion avec ce qu'on appelle les protections sociales ou les agents sociaux. Là. On fait une enquête pour voir est-ce que pour cet enfant, il y a la possibilité de est-ce que c'est possible de les réinsérer afin qu'il devienne quelqu'un de normal dans la société, où c'est possible, on travaille avec les agents sociaux pour travailler afin que le délinquant mineur soit réinséré. Ça, c'est aussi l'une des palettes de mesures dont dispose le juge de mineurs en ce qui concerne les enfants en conflit avec la loi.
Monsieur Seyne Djoubo, chargé de protection de l'ANTD, malgré l'existence de ces tests et les arrestations, ce phénomène est donc loin d'être résolu. À quoi est dû cela?
C'est un problème de société, la délinquance. Et qui dit problème de société, et aujourd'hui nous sommes en train d'assister, n'est-ce pas, à une urbanisation accélérée qui est malheureusement incontrôlée. Parce que aujourd'hui, pratiquement, quand vous faites un recul, il y a une décennie de cela, la ville de Niamey ne ressemble pas à ça. Et que malheureusement, avant, c'était ce genre de crimes, on les entendait des autres pays voisins. Souvent même, c'était des mythes pour certains de nos concitoyens, où on peut, du moins, tuer à sang-froid dans la rue, où on peut retrouver des enfants qui dorment, n'est-ce pas, dans la rue, dans les marchés et autres. Malheureusement, aujourd'hui, ce phénomène est venu chez nous. Donc, comme je le disais tantôt, c'est la recherche effrénée, n'est-ce pas, des gens ou des jeunes qui retournent en exode, parce que c'est aussi un phénomène, et, du moins, qui retournent en exode et qu'ils viennent avec des moyens. Du coup, au village, on sait qu'il y a cette mentalité qui dit que si l'enfant de l'autre a réussi et que ton enfant n'a pas réussi, c'est une sorte de malédiction. Et généralement, ces enfants, il y a quelques peu, c'est des cas rares en tout cas, qui sont de la ville et parmi ces enfants-là. Le plus souvent, quand vous les interviewez, c'est des enfants qui ont quitté ou c'est des enfants qui ont des problèmes familiaux. Parce qu'un enfant qui, du moins, a reçu une maltraitance au niveau de sa marâtre ou bien avec des parents délinquants, où le père est pratiquement ivre, où il bat la maman, tout ça, la séparation dans les couples, etc., etc., sont des phénomènes qui amènent les enfants, n'est-ce pas, à se retrouver dans une situation inconfortable.
Monsieur Agali Mustapha, vous êtes juge. De votre côté, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait que malgré l'existence de ces textes, ce phénomène persiste encore?
La délinquance, de manière générale, ou la criminalité, de manière générale, c'est un être humain. C'est un fait de société, il faut reconnaître cela. Pourquoi un certain nombre d'institutions comme la justice sont créées parce qu'on sait que l'être humain est le duchier et qu'on ne peut pas le détacher de ce côté, comment on appelle ça, duchier, qui l'amène toujours à commettre des fautes, jusqu'à des fautes qui sont réprimées par la loi pénale. Maintenant, en ce qui concerne l'enfant, pour un enfant qui, en réalité, a eu la chance d'être bien suivi par la famille ou par les assistants sociaux, pour une première infraction, par exemple, on prend le cas d'un enfant qui commet le vol, un vol, par exemple, un vol simple, comme on le dit dans notre jargon. Pour un enfant qui a commis un vol simple et qui, par exemple, c'est un élève, il peut bénéficier d'une liberté jusqu'à ce qu'il soit jugé et qu'il bénéficie d'une condamnation avec ceci. Donc cet enfant peut avoir la chance de ne jamais rentrer en prison. Il ne faut plus la détention de, comment on appelle ça, pour vaincre le temps d'être mis en liberté. Donc, de la garde à vue jusqu'en prison, parce que toujours, le juge va pouvoir rapidement, le juge de mineur va pouvoir rapidement prendre son dossier, il va se rendre compte d'un certain nombre de situations, il va le mettre en liberté. Donc, cet enfant est véritablement récupérable si, au niveau de la société, il y a eu un certain nombre de fonds d'accompagnement. Bien entendu, si, très souvent, les enfants retombent, tombent et sortent, jusqu'à ce qu'il devienne bien délinquant, parce qu'au niveau de la famille, au niveau des entreprises sociaux et des assistants sociaux, il n'y a pas des efforts. C'est parce qu'au niveau de la famille, il n'y a pas des efforts. Les enfants, aujourd'hui, avec tout ce qu'on avait comme dispositif législatif au niveau national et international, un délinquant mineur, il a beaucoup de chances d'être récupéré. C'est derrière ça l'objectif de cette législation, mais il faut des efforts. Il ne s'agit pas pour le juge qui ont vraiment donné l'enfant à liberté, pour qu'il répète encore, puisque nous avons eu beaucoup de cas comme ça. Parce que c'est un mineur, parce qu'il y a un certain nombre de dispositifs légaux. Un dispositif légal qui peut se mettre à liberté, qui peut se mettre à liberté, qui peut se résumer 2 mois ou 3 mois. Vous voyez un peu, et là, s'il revient, s'il est devenu, c'est qu'il a réservé son cas. Vous voyez un peu, dans certains cas, la prison devient une situation incontournable. C'est la loi, le travail d'un juge, c'est toujours la loi. Condamner une prison pour un mineur avec ceci, et ça, il revient, même si par ailleurs, on dit que pour l'enfant mineur, comment on appelle ça, les casiers judiciaires ne tiennent pas. Ce qu'il va faire avant, et s'il revient et qu'il est toujours mineur, on ne va pas tenir compte. Mais dans votre conscience, vous savez que cet enfant-là, si vous laissez, il va encore aller faire. Vous savez, vous allez vous utiliser cela, quoi. Vous laissez l'enfant à liberté, une fois, il fait encore. On vous le ramène. À mon avis, beaucoup de cas. Ou à ce deuxième période de 6 mois, par exemple, l'enfant va connaître trois fois une infection. Parce qu'il n'y a pas d'efforts, par ailleurs. Il n'y a pas d'efforts. Dans une telle situation, souvent, le juge est contraint de mettre l'enfant en détention et de l'établir.
Monsieur Hussaine Djoubo, chargé de protection de l'ANTD, quelles sont les difficultés que rencontre l'ANTD dans la lutte contre ce phénomène?
Donc, comme tout travail d'abord humain, il y a toujours des difficultés, il y a des hauts et des bas. Parmi ces difficultés, il faut reconnaître que c'est des enfants, avant qu'ils ne donnent leur aval, c'est-à-dire avant que vous ne créiez la confiance entre vous, vous avez, n'est-ce pas, toutes les peines du monde. Donc ça, c'est le premier problème. Et le second problème, c'est que ces enfants sont en nombre. Et malheureusement, l'ANTD n'a pas les moyens de les prendre tous en charge. C'est-à-dire que ça soit du point de vue appui psychosocial, souvent les retours en famille, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des enfants qui ont besoin de retourner chez eux. Et là, nous avons un projet qui s'appelle les RAO, je l'ai souligné tantôt, où nous pouvions prendre des enfants et les ramener dans l'espace CDAO et même au niveau de la montagne. Donc, et quand on les ramène, et on crée un projet de vie pour ces enfants. Parce qu'il ne suffirait pas de les ramener seulement, il faut aussi faire une action d'accompagnement. Maintenant, parmi ces difficultés, donc, y a la mobilité de ces enfants. Souvent, c'est des enfants, dès que vous commencez à travailler, ils sont versatiles. Et ils peuvent, à court de chemin, n'est-ce pas, vous lâcher ou souvent même changer d'endroit. Donc, surtout, c'est cette mobilité qui cause un casse-tête pour nous. Et le second aspect, un problème, ça c'est un problème général, c'est le problème des sociétés, comme je l'ai dit. C'est fléau. Et la NTD seule ne peut pas faire en sorte que ces fléaux finissent. Mais nous avons ces soucis. Nous avons ces soucis que le problème puisse finir. Et notre mal aujourd'hui, c'est que nous puissions voir, n'est-ce pas, le nombre des enfants qui est en train d'accroître, des enfants délinquants, n'est-ce pas, qui est en train d'accroître. Donc, du coup, pour un travailleur social, c'est un mal.
Pour un pays où la jeunesse constitue 60 à 70% de la population, et à ton coutume de le dire que le développement d'un pays repose d'abord sur sa jeunesse, Monsieur Hussaine Djoubo, chargé de protection de l'ANTD, quels sont les impacts de ce phénomène sur le développement du pays et aussi les conséquences pour la société tout entière?
La première conséquence, c'est une conséquence qui est liée au développement. Vous conviendrez avec moi, une jeunesse de 60 à 70% doit constituer normalement une main d'œuvre pour le développement, n'est-ce pas, de cette nation. Mais très malheureusement, on peut participer à des faits pervers lorsque cette société, du moins cette jeunesse, n'est pas bien encadrée. Elle n'est pas éduquée à la base, elle ne peut pas donner des fruits escomptés. Et c'est l'éducation, comme le disait tantôt un ancien président de la République du Niger, il dit que ce pays sera demain. Et c'est que sa jeunesse d'aujourd'hui. Si aujourd'hui la délinquance persiste, si aujourd'hui les jeunes sont délaissés à eux-mêmes, si dans les familles il n'y a pas assez d'encadrement, si ces soucis-là d'envoyer les enfants, les éduquer, les suivre, n'est pas la première priorité de ces pays, vous vous conviendrez avec moi, c'est comme un arbre que vous plantez et vous ne l'entretenez pas. Du coup, vous n'aurez pas de fruits. En tout cas, même si vous aurez des fruits, ce n'est pas les fruits que vous avez rêvés. Donc, cette jeunesse de 60 à 70% est à l'image, n'est-ce pas, d'une plante. Il va falloir que chacun puisse créer les conditions à son niveau pour que d'abord éduquer ce qui est de son côté, c'est-à-dire ce qui est de son domaine de compétence, sa famille d'abord, ensuite son entourage, puis de manière générale la société.
Monsieur Mustapha Agali, vous êtes juge, est-ce que vous pouvez nous donner une estimation du nombre de cas enregistrés au Niger?
Nous savons que c'est devenu très récurrent. C'est devenu très récurrent. Si vous voulez, tous les mercredis, les audiences des mineurs, vous allez voir beaucoup de enfants. Je ne saurais vous dire les statistiques exactes qui ne sont pas encore établies, mais c'est une situation qui est très récurrente. Il n'y a pas un mercredi où vous n'avez pas de mineurs qui sont amenés pour les audiences. Vous voyez? Comme je dis, ce qui est plus choquant pour nous, c'est de voir ces mêmes enfants, parce que souvent, c'est les mêmes enfants qui vont pour les audiences. Et ça ne dit rien aujourd'hui d'être en justice ou demain de se retrouver encore. C'est vraiment ce qu'il faut retenir de manière générale. C'est que aujourd'hui, les enfants, on a l'impression qu'ils sont laissés pour compte. Quoi. Un enfant qui a 13 ans, 15 ans ou 16 ans, qui fait déjà 2-3 tours en prison et qui va continuer jusqu'à être majeur. Nous, on a vu des enfants qu'on connaît depuis qu'ils étaient mineurs. Ils sont devenus majeurs, on les reçoit aussi en audience professionnelle. Vous voyez, là, il y a vraiment une certaine défaillance qu'il faut, notoire d'ailleurs, qu'il faut retenir à l'endroit de la société.
Monsieur Seine Jubo, vous êtes chargé de protection de l'ANTD. Comment remédier à ce phénomène?
Pour remédier à ce phénomène, c'est vrai, ce n'est pas une tâche simple. Il va falloir retourner, n'est-ce pas, aux bases fondamentales. Et ces bases fondamentales, ce n'est d'autre que nos valeurs ancestrales. C'est-à-dire, il va falloir retourner aux mœurs que nous connaissons en Afrique. L'éducation de la société par les adultes. Il ne s'agit pas seulement de mettre un enfant au monde et que ce soit seul vous qui devrez prendre soin de son éducation. L'enfant, c'est pour tout le monde. L'enfant, c'est pour la société. Donc, à ce niveau, il va falloir que chacun puisse mettre la main à la pâte, comme on l'a dit, pour que nous puissions avoir une société saine. Et pour l'avoir, il va falloir d'abord sortir ces enfants qui sont dans la rue, ces enfants de la rue, et ces enfants qui sont en situation de prostitution, ces enfants qui sont en situation de difficultés familiales. Il va falloir y remédier à leurs problèmes. Pour y remédier, il va falloir d'abord créer les conditions d'une certaine confiance. Ensuite, une mesure d'accompagnement. Tout à l'heure, j'ai entendu M. le juge le dire. Effectivement, le rôle de la justice, pour un mineur, surtout, on dit que la prison, c'est la pire des choses qu'un juge puisse envisager pour un enfant. Donc, à ce niveau, même si l'enfant part en prison, avant qu'il ne puisse sortir, il va falloir que les ONG, les structures associatives puissent envisager, un projet de vie pour lui, post-prison. Parce qu'un enfant qui est parti en prison pour un tort, quand vous voyez souvent, c'est plutôt pour une question de survie que l'enfant commet certains actes. Et que l'enfant, il ressort de la prison, il n'a pas encore, une amélioration dans son quotidien. Vous conviendrez avec moi qu'il va récidiver. Et donc, nous estimons que pour que l'enfant ne puisse pas récidiver, il va falloir que ça soit les juges. C'est vrai, ça s'est fait, mais il faut accentuer les structures associatives, les ONG et la justice puissent travailler en commun accord pour pouvoir accueillir les enfants aussitôt à leur sortie de la prison. Les ONG n'ont pas certes les moyens adéquats pour pouvoir faire face à ce genre de préoccupations au quotidien. Mais quand même, il va falloir maximiser pour pouvoir et offrir à notre société des jeunes responsables, des jeunes éduqués et aussi des jeunes conscients.
Qu'est-ce que vous attendez des autorités pour éradiquer la délinquance juvénile au Niger?
C'est d'abord jouer pleinement leur rôle. Qu'est-ce que j'entends par jouer pleinement leur rôle? C'est de mettre, n'est-ce pas, des moyens au niveau de la jeunesse, n'est-ce pas, afin que l'accompagnement soit un accompagnement de base, que ça soit un accompagnement de base. Il faut que les jeunes soient aussi la priorité du gouvernement. C'est vrai, je ne dis pas que les jeunes ne sont pas la priorité du gouvernement, mais il va falloir mettre l'accent sur la jeunesse, sur son éducation, sur ce que la jeunesse fait. Et donc, à ce niveau-ci, le gouvernement joue ce rôle. Je pense que ça peut aller.
Quels sont donc vos conseils et recommandations à la population, plus précisément aux jeunes, pour mettre fin à ce phénomène, M. Mustapha Agali?
Dans un premier temps, il faut, comme je l'ai évoqué précédemment, la réinsertion. À ce niveau, je crois que l'État est en train de envisager la création d'autres centres. En ce moment, il y avait un seul centre qui est à Dakoro, et un centre de réinsertion des jeunes. Parce que laisser à ces familles qui ont déjà laissé ces enfants plonger dans les délinquances, ce n'est pas forcément une solution. Nous sommes en train de qualifier des exemples sur certains pays à travers les centres de réinsertion là. Parce qu'il faut l'extraire de ce milieu où il a appris à faire la délinquance, où il est en train de faire la délinquance pour faciliter la réinsertion. C'est dans ce sens que l'État envisage la création de ces centres. Ou l'augmentation, parce qu'on a déjà un centre qui est à Dakoro, et je crois que l'État est en train de projeter la création de deux autres grands centres qui vont accueillir ces jeunes qui sont repris de la justice afin de les aider à se réinsérer dans la société, à les apprendre un métier, à les éloigner de leur milieu de leur milieu de prédilection dans lequel ils ont appris à faire la délinquance et ils la font. Maintenant, les conseils, c'est quoi? La délinquance ou, l'illégalité, ou tout ce qui va dans ce sens, l'interdit de ne pas laisser l'enfant éduquer. L'interdit, il a cet aspect qui est là, qui est comme une drogue, si vous voulez. Quand on y goûte, on ne peut plus s'empêcher, sauf s'il y a des efforts parallèlement d'accompagnement pour vraiment faire en sorte que l'enfant arrive à se défaire de cette délinquance. Donc, c'est d'appeler les parents et les structures comme les ONG et autres qui travaillent dans ce sens-là. C'est de continuer à travailler et d'accompagner surtout ça. D'accompagner surtout ces enfants. Parce qu'aujourd'hui, un enfant qui commence, c'est très difficile d'y arriver. Les efforts doivent aller plus dans le sens. Donc, par conséquent, les efforts doivent aller plus dans le sens de la prévention. Parce qu'un enfant qui commence, je le disais tout à l'heure, je vais me répéter encore, un enfant qui commence très vite, mais un enfant qui n'a pas encore commencé, qui n'a pas goûté à la délinquance, c'est plus facile encore de faire en sorte qu'il évite et qu'il ne fait pas de cette délinquance qu'un enfant qui a commencé déjà.
Monsieur Seyni Djoubo, chargé de protection de l'ANTD.
Bon, pour, n'est-ce pas, y remédier à ce genre de problème, je le disais tantôt, comme on dit, la répétition est pédagogique, il va falloir, n'est-ce pas, mettre des mesures d'accompagnement. Parce que c'est comme un médecin qui traite son patient et qu'il n'y a pas un suivi. Vous conviendrez avec moi qu'on peut avoir ce qu'on appelle rechute. Donc c'est la même chose dans notre travail en tant qu'agent social, n'est-ce pas? Et de pouvoir amener, parce que chaque enfant est un cas et chaque cas a une réponse spécifique. Et les enfants, c'est vrai, ils vivent ensemble, malgré qu'ils sont dans la rue, ou du moins c'est des enfants de la rue, ou du moins c'est des jeunes délinquants, ils n'ont pas les mêmes problèmes. Ce n'est pas les mêmes mobiles qui les a poussés, n'est-ce pas, dans la rue. Donc, à ce niveau, il va falloir faire un diagnostic, ensuite apporter des réponses adéquates pour les enfants individuellement. C'est pourquoi, à notre niveau, il y a des dossiers confidentiels de chaque enfant qu'on gère et qu'il y a un agent spécifique qui suit chaque enfant individuellement pris, que ce soit pour l'écoute, que ce soit pour le suivi, que ce soit pour la réinsertion professionnelle. Donc, je pense que si ces étapes sont bien suivies, si aujourd'hui l'enfant a besoin, parce qu'il y a des enfants aussi qui ont des conflits familiaux, l'enfant a quitté chez lui, là, l'ANTD crée les conditions souvent, le plus souvent d'ailleurs, de pouvoir créer ce qu'on appelle la remédiation familiale. L'enfant est en conflit avec sa famille, souvent l'enfant quitte même une région pour la grande ville. Donc, du coup, on contacte ses parents parce qu'on a des points focaux dans les 266 communes du Niger. Donc, on crée les conditions de toucher nos points focaux qui puissent prendre attache avec les parents. C'est ce qu'on appelle la recherche famille. Et petit à petit, on crée la confiance pour pouvoir y remédier et que l'enfant puisse regagner sa famille. Parce que vous conviendrez avec moi, le cadre le plus idéal pour un enfant, c'est toujours sa famille.
Voilà, nous sommes à la fin de ce forum sur la délinquance juvénile au Niger, vol et meurtre commis par les jeunes. Un phénomène qui gagne du terrain et qui doit interpeller la conscience de tous, l'État, les parents, la jeunesse. Vous avez donc suivi l'intervention de nos invités, chacun dans sa sphère de compétences sur les contours de ce thème afin de trouver des solutions face à ces fléaux qui gangrènent la société. Nous étions en compagnie de M. Mustapha Agali, juge, et M. Seyni Jubo, chargé de protection de l'ANTD. La présentation est assurée par Fatih Zakari, la régie son Amina Hassan.